Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Perrine Corvezier, avec Amélie Dag, mon associée, nous avons créé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil comportemental qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de Talents Précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux, suivez Talents Précieux sur Instagram. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter Talents Précieux là où vous nous écoutez.
Alors pour moi, la réussite, c'était de passer de l'autre côté. Et de le faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire passer cette ligne d'arrivée en temps et en heure, sans aide extérieure, etc. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc moi, je m'en foutais en fait de savoir quelle place j'allais avoir. De toute façon, si j'avais une place, c'était forcément la meilleure. Ça veut dire que j'ai réussi à aller au bout de ce que je pensais impossible de faire, quoi.
C'est Instagram qui a amené Pierre Mastalski vers Talents Précieux. Et si un aventurier, un vrai, un aventurier de la mer, venait nous parler des compétences mises en œuvre pour réussir? C'est ce qu'il a fait et c'était passionnant. Je suis tellement heureuse de pouvoir le partager avec vous. Pierre n'était ni sportif, ni marin, ni solitaire, ni suicidaire quand il a réalisé la traversée de l'Atlantique à la rame. Il nous raconte la préparation, la traversée et la suite de son aventure. Pierre aborde la prise de conscience des a priori, la découverte de soi-même, la capacité d'adaptation, l'importance de l'équipe dans une aventure en solitaire. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que Pierre est également un aventurier des entreprises. Il partage avec nous des astuces de vente, des techniques de négociation, comme il énumère les compétences qui mènent à la réussite. Bonne écoute et bon vent. Bonjour Pierre.
Bonjour.
C'est la première fois que je parle à un aventurier. Est-ce que tu es vraiment aujourd'hui encore un aventurier?
Je le suis toujours, puis je l'ai peut-être toujours été au fond, que ce soit professionnellement ou dans ce que je fais à côté. Hein. Mais c'est vrai que là, oui, c'était une vraie aventure, quoi. Donc aventurier...
Je t'ai déjà vu avec un chapeau de pirate. Ça donne un autre indice à nos auditeurs, c'est-à-dire c'était quoi ton aventure à toi?
Alors la vraie aventure, hein, celle qui, puisque tu parles de pirates avant, c'est la traversée de l'Atlantique à la rame. Alors il y a plusieurs particularités parce que pas mal de personnes l'ont déjà réalisé, mais moi je suis pas marin du tout, je suis pas un sportif de haut niveau, j'aime pas l'eau, j'avais rien à foutre là, quoi. Et l'histoire du pirate finalement, elle est assez liée à cette traversée, c'est que au cours de cette aventure, j'ai rencontré des vrais pirates, c'est-à-dire des gens qui s'habillent comme des pirates de l'époque, qui vivent comme des pirates sur des festivals, et j'ai été invité, et pendant une journée, j'ai été pirate. Et à la fin, en fait, ils m'ont dit, mais nous, on fait les pirates depuis des années, on adore ça, mais on n'a jamais, en fait, été sur l'eau, quoi. Et toi, tu vas traverser l'océan. Donc, ils m'ont donné, en fait, plein d'éléments, en fait, de pirates pour traverser. Donc, j'avais un camal qui me permettait de choisir mon cap, etc., comme les vrais pirates, quoi. Donc, c'est de ce moment-là que je suis devenu un pirate, oui.
Donc, il y a un peu moins de 10 ans maintenant, tu as traversé l'Atlantique seul, à la rame, sans escale, sans hélicoptère au-dessus de toi.
Sans hélicoptère, sans assistance, en fait.
Sans assistance du tout. Un téléphone, quand même, par sécurité. C'était quoi la sécurité, quand même, qu'il y avait dans cette traversée incroyable?
La plus grosse sécurité, c'est ton bateau. C'est vraiment, puisque c'est le seul élément quelque part qui te rattache à la vie. Puisque sans bateau, en tout cas celui-ci étant insubmersible, c'est vraiment ton canot de survie. Donc c'est vraiment la première des sécurités. Après, t'as un téléphone satellitaire. Enfin, moi j'ai souvent tendance à dire, il y a 30 ans ou 40 ans, quand je partais en vacances, mes parents, ils recevaient la carte postale, j'étais déjà rentré, quoi. Là, t'as quand même, tu peux recevoir des SMS. Après, la voix est pas forcément très audible, parce que le bateau est bas et la mer est toujours beaucoup plus haute que le bateau, mais tu peux aussi parler, envoyer de la data, voilà, donc t'as des moyens de communication et télécommunication assez puissants.
Plus de 40 jours seul dans un bateau, ça t'a servi à quoi? Parce que j'imagine que c'était pas juste aller de l'autre côté?
Alors, au départ, si, puisque moi, c'est presque un rêve inavoué, en fait. C'est une rencontre que j'ai faite sur un salon nautique. C'est la première fois que j'y mettais les pieds, un salon nautique. Moi, tu m'aurais dit d'aller à un salon de la moto, j'y courais. Salon du nautisme, aucun intérêt, quoi. Mais c'est un pote qui m'a dit, viens, tu verras, ça va être top, tu vas te régaler. Effectivement, je me suis régalé, mais j'ai surtout vu une espèce de truc qui m'a plutôt interpellé, et c'était ce fameux bateau. Il avait pas de mât, il y avait une bulle de Tintin. Je me demandais ce que c'était, quoi. Et c'est plus la rencontre avec à la fois ce bateau et la personne que j'ai rencontrée sur le salon qui m'a vraiment, ça m'a fait un déclic, en fait. Et c'est plus cette rencontre-là qui m'a emmené vers l'océan, vers cette traversée. Je pense que sinon, de toute façon, j'aurais jamais mis les pieds, quoi.
Donc tu dis la rencontre avec un bateau, un objet qui t'a intrigué, et la personne, ça a été quoi son rôle dans ton aventure?
Son rôle, ça a été finalement de me faire prendre conscience de mes a priori. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu ce bateau qui m'a expliqué que c'était pour traverser l'Atlantique, comme Gérard d'Abbeville, etc., je me suis dit, mais putain, il faut être complètement cinglé pour faire ça, quoi. Faut être un malade mental. Ou alors, faut être extrêmement puissant physiquement. Et là, vous me voyez pas, mais je fais 1m70. Enfin, je suis plutôt taillé assez léger. Et je suis pas taré du tout, quoi. Je suis plutôt assez rationnel. Et donc, pour moi, c'était pas pour moi. Et cette personne était plus âgée que moi, plus petite que moi. En fait, j'ai à le faire, quoi. Et puis, elle l'avait fait visiblement 2 ans avant, à 52 ans. Et là, moi, je me suis dit, mais lui, il se moque de moi, en fait. Ben non, c'était vrai. Et donc, ça a un peu mûri dans ma tête en me disant, mais moi, s'il l'a fait, moi aussi, quoi, en fait. Donc, ce que moi, je ne pensais pas faisable, parce que je pensais qu'il fallait être vraiment costaud et complètement fou. Ben non, en fait.
Il y a eu beaucoup de préparation entre le salon nautique et ton départ?
Il y a eu un mois de réflexion. Enfin, de réflexion, de les yeux qui brillent, qui pétillent, puis après la réalité, est-ce que tu le fais? Tu sais que tu peux perdre ta vie, pas revenir, t'y connais rien. Enfin bref, donc tu passes pas mal de choses, les enfants, la famille, le boulot, bref, toutes nos habitudes, en fait, et toute notre vie. Et puis, une fois que la décision a été prise, un mois après... c'était 1 an de préparation, parce que le départ était 1 an après. Donc c'est 1 an plus le boulot, et tu te prépares à tout, quoi. Donc, à tout ce que tu imagines.
Ouais, préparation physique, financière quand même, j'imagine. Trouver des sponsors, t'avais des sponsors?
Alors au début j'avais rien du tout, j'avais pas de bateau, j'avais rien. Donc oui, c'est trouver des partenaires financiers, forcément. Mais encore, je dis souvent que c'est quand t'es pas marin, que t'es pas sportif de haut niveau et que t'aimes pas l'eau, trouver 100 000 euros, ça fait partie de l'aventure. Ouais. et j'ai trouvé finalement ces 100 000 euros au bout du compte. Alors pas forcément la totalité avant le départ, mais après c'est encore tombé derrière.
C'était quoi la réussite de cette traversée pour toi?
Alors pour moi, la réussite, c'était de passer de l'autre côté et de le faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire passer cette ligne d'arrivée en temps et en heure, sans aide extérieure, etc. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc moi, je m'en foutais, en fait, de savoir quelle place j'allais avoir. De toute façon, si j'avais une place, c'était forcément la meilleure. Ça veut dire que j'ai réussi à aller au bout de ce que je pensais impossible de faire, quoi.
D'accord. J'imagine que pendant plus de 40 jours, tu cogites, t'as eu envie de repartir dans l'autre sens?
Alors si toutefois j'avais eu envie, je parle beaucoup moi souvent de s'autoriser des choses, mais alors là il vaut mieux pas se l'autoriser d'aller de l'autre côté, parce que déjà c'est très difficile d'aller dans ce sens-là, donc de Dakar vers Cayenne c'est assez complexe, mais de l'autre côté c'est quasiment impossible en fait, les vents sont contraires, les courants le sont déjà naturellement, mais là ils le sont encore plus, donc c'est quasiment impossible. Après, je sais qu'il y en a peut-être qui ont essayé, mais lutter contre les éléments, tu y arrives de 3, 4, 5, 6 heures. Mais bon, après...
Tu t'es découvert toi-même dans cette traversée, j'imagine?
Oui, parce que quand tu passes autant de temps seul avec toi-même, tu y es de toute façon très vite. Hein. Encore en une journée de temps, t'es vite seul face à toi-même, t'as vite compris en fait l'étendue du chantier, hein, si on peut appeler ça un chantier. Donc oui, t'apprends beaucoup sur toi. Tu reviens énormément finalement à l'essentiel, et puis tu es assez surpris par ton corps, par ta tête, c'est-à-dire sa capacité finalement d'adaptation face aux éléments, quoi, parce que t'as pas vraiment le choix en fait, mais très rapidement tu te trouves une espèce de rythme, de fonctionnement, où tu prends des décisions, pas forcément les meilleures, mais en tout cas tu les prends. Donc moi je dis souvent que tu prends les moins mauvaises décisions, mais en tous les cas tu les prends, donc tu avances. Et tu apprends en permanence de ces moins mauvaises décisions pour qu'elles deviennent de mieux en mieux en fait. Et plus, plus ça avance, plus tu t'affines, plus t'es performant, plus tu te sens mieux, et puis plus t'es rassuré quoi, en fait.
T'avais quand même une équipe à terre, tu te sentais dans une aventure à plusieurs, même si t'étais le seul à ramer.
Alors moi oui, de toute façon c'est presque le paradoxe en fait de cette aventure, c'est que c'est en solitaire, c'est sans assistance, c'est sans escale, enfin c'est un peu comme un grand ou comme un sale égoïste. Ça c'est ce qu'on peut penser au départ, mais le véritable paradoxe c'est que seul de toute façon tu fais à rien quoi. Donc moi c'était quand même une trentaine de personnes, de bénévoles, donc c'est une mini entreprise, une PME, une petite PME bénévole qui gravite en fait autour du projet pour me permettre d'aller au bout quoi. Mais ça va de la préparation du bateau, la navigation, le routage, l'alimentation, la préparation physique, la préparation mentale, enfin c'est beaucoup de compétences en fait autour, alors beaucoup de présence aussi, mais seul non, tu fais pas grand chose.
Ça te mettait pas la pression d'avoir cette équipe-là dans un tel défi ?
Non, parce qu'en fait, moi je dis toujours, enfin, j'ai jamais fonctionné seul en fait, donc c'est pour moi c'est impossible de toute façon, et c'est la réalité de faire les choses seul, ça marche pas. Tout le monde te dit que ça va plus vite, mon cul. On sait très bien où ça mène en fait, donc on peut aller très vite à plusieurs. C'est pas vrai qu'on va plus vite tout seul, mais c'est surtout important et ça m'a jamais mis de pression. Moi, je me suis jamais mis de pression en fait. L'objectif, c'était de traverser. Je me suis jamais mis de pression du nombre de jours, de gagner. D'ailleurs, j'ai souvent, j'aime pas le terme gagner. Je préfère le terme réussir. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans une équipe. Si on prend l'exemple d'une entreprise ou de ce type de projet, faut pas oublier les éléments, faut pas oublier un certain nombre de choses en fait. Et pour réussir, il faut pas oublier l'essentiel. Quoi.
Une fois que t'es arrivé, qu'est-ce que tu t'es dit ? Est-ce que tu t'es dit bon bah c'est réussi, je recommence et je fais autre chose de plus grand, de différent ?
Quand t'arrives, déjà t'as un gros sentiment de sérénité. T'es calme, t'es vraiment en plein accord avec toi-même, c'est-à-dire que tout le monde te parle d'exploit, de machin, il y a une espèce de tourbillon autour de toi, mais toi t'es juste heureux, déjà tu retrouves tes proches, ta femme, tes enfants, ceux qui ont pu faire le déplacement à l'arrivée, à Cayenne en l'occurrence, donc ça, il y a vraiment un moment où t'as quand même passé 42 jours tout seul. Alors c'est pas tout seul, il y a plein d'animaux en mer. Et puis t'as plein de pensées aussi. Mais effectivement, tu revois en fait. Donc c'est des moments qui sont assez forts. Mais non, finalement, en fait, t'as pas de tout de suite envie de repartir. T'es bien là où tu es. Tu profites. Après, t'as aussi le mal de terre, donc t'as un peu de mal à t'habituer à revenir sur quelque chose qui bouge plus, parce que ton corps s'est complètement adapté à un milieu mouvant, même ta position, ta tête, enfin tout est tu fais corps finalement avec les éléments, et là tu arrives sur quelque chose de stable. Donc en fait, t'as tout qui bouge autour de toi, donc c'est assez particulier quoi. Donc t'as un petit temps d'adaptation, mais finalement t'as tellement manqué de choses, le regard d'une personne par exemple, mais aussi la nourriture. Donc tout est beau, tout est chouette, tout a beaucoup plus de saveur en fait, presque du goût.
Et cette sensation de sérénité, de beauté, de gratitude, elle dure combien de temps ?
Ben, ça fait 7 ans, ça continue encore.
Ça t'a changé ?
Moi je dis souvent que ça m'a pas forcément changé fondamentalement, ça a vraiment renforcé le ce que je pensais au fond. Ouais, tout simplement. Je pense qu'on part pas, celui qui part et qui est pas, enfin qui fuit quelque chose, il traverse pas ou ça se passe mal. Moi je fuis rien en fait. C'est certainement un rêve inavoué. J'avais des yeux qui brillaient. Je trouvais ça incroyable. Relier deux continents à la force des bras, il y avait une symbolique qui était vraiment forte. Tout seul face aux éléments, je trouvais ça vraiment assez puissant. Et puis tout le monde le même bateau. Ça veut dire c'est de la monotypie, hein, pas qu'on a un plus léger, plus de. Donc je trouvais ça, il y avait plein de principes qui me plaisaient en fait et plein de valeurs en fait qui me plaisaient. Et puis au-delà du fait que ce soit une course, pour moi la course a toujours été un prétexte. Les plages, j'en ai jamais rien eu à faire finalement, mais c'est un prétexte pour faire les choses. Peut-être que sans organisation, j'aurais peut-être pas fait tout seul. Déjà, j'aurais pas découvert ça. Donc c'est aussi un cadre quelque part qui est rassurant. Et qui te pousse finalement à faire des choses que tu n'aurais pas faites. Donc moi, je remercie toujours le créateur de cette course, qui s'appelle Michel Auro, qui a pu finalement permettre à un bleu-bite de la mer comme moi de faire quelque chose d'extraordinaire.
Ton ton bateau, c'est resté un de tes amis, un de tes outils proches, ou tu l'as laissé là-bas et tu n'as plus jamais l'entendre parler?
Ah non, 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 le bateau, c'est là qu'on comprend que alors c'est effectivement un bel objet, hein, mais ça n'a rien à voir avec une voiture, avec une maison, avec, c'est un peu tout ça mélangé, et on a passé tellement de choses fortes dedans que ça se vend pas, en fait, ça se transmet. Et il est fait quand même pour être sur l'eau. Donc il faut qu'il reparte, sinon c'est un joli pot de fleurs, mais c'est dommage, quoi, parce qu'il se détériore, il s'abîme, et il est tellement beau sur l'eau, il est tellement fait pour ça, qu'il faut que d'autres personnes revivent ça. Donc j'ai plutôt transmis ce bateau, donc quelqu'un me l'a racheté, mais est reparti avec, et ce bateau va repartir encore une troisième fois après
donc
moi.
Donc tu le suis.
Donc je le suis.
D'accord. Avant cette grande aventure, c'était quoi ta plus grande aventure menée dans ta vie professionnelle ou peut-être personnelle?
La plus belle aventure, elle est certainement professionnelle. Hein. C'est à l'époque, j'étais chez Canon, puis j'ai quitté Canon, la bureautique, donc la belle école de vente, la grosse structure. Et je suis rentré dans une petite boîte qui s'appelait Omnicom, hein, qui était le premier concurrent de France Télécom. Donc personne ne savait, ex-PTT quand même, je rappelle. Hein, l'État, quoi. Donc l'État dans l'État. Et nous, on était vraiment le petit troublion. Et c'est certainement la plus belle expérience professionnelle, puisque j'étais très très jeune et j'ai accédé à des responsabilités extrêmement rapidement, puisque la boîte a grossi très vite. C'est devenu d'ailleurs SFR quelques années plus tard, après plein de péripéties, des introductions boursières. Et donc je suis passé finalement de directeur de moi-même, au départ, parce que j'étais directeur régional, mais en fait il n'y avait rien, il y avait tout à monter, à m'occuper de Paris par la suite, région parisienne, puis la France, puis voilà, donc avec des responsabilités, 40 commerciaux, donc ouais, une expérience incroyable, et surtout dans une ambiance incroyable. Beaucoup de confiance, beaucoup d'insouciance, mais à la fois de sérieux, de plaisir, de joie, de rigolade, mais on a bossé, quoi.
Ouais, bon, c'est ça,
marré, quoi.
Si t'as réussi à monter aussi tôt et aussi vite et aussi haut, chez eux, c'est quoi? C'est que tu travaillais, t'étais dans un climat de confiance. Qu'est-ce que tu mettais d'autre de toi pour y arriver?
C'est vraiment un climat de confiance. C'est-à-dire que moi, j'ai été le premier surpris, finalement, c'est deux personnes. Alors, moi, je dis deux jeunes, mais à l'époque, ils avaient 35 ans. Moi, j'en avais 25, 26. Donc, j'étais vraiment beaucoup plus jeune qu'eux. Mais eux étaient finalement très jeunes. Mais ils m'ont fait confiance. Voilà, ils m'ont confié les clés. Voilà, ils m'ont dit, tu t'occupes de la région Est. Et donc je me suis retrouvé du jour au lendemain à trouver une agence, chercher une secrétaire, faire le technicien, monter des trucs, aller chercher les premiers clients. Puis ça a grossi, c'est monté. Et puis on a commencé à être plusieurs, on a commencé à prendre des gros clients, on a commencé à faire un peu mal sur la région. Et puis la boîte grossissant, eh bien moi c'est une des personnes que j'ai recrutées qui a pris ma place. Moi je suis parti à Paris et ainsi de suite en fait. Donc c'est des expériences formidables, mais oui, dans un climat de confiance totale, puisque de toute façon, dans les démarrages d'activité, il n'y a pas d'autre choix.
Oui, c'est ça. J'ai lu des choses sur toi où tu dis que tu étais quand même souvent là ou toujours là dans les démarrages. C'était un homme des démarrages, c'est ça?
Ouais, j'aime ce côté. Alors, c'est pas que j'aime ce côté, mais je trouve que c'est là où il y a où tout est beaucoup plus sain, beaucoup plus simple, beaucoup plus sincère. Et c'est là où on est les plus performants, en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas t'as pas d'argent, ou très peu. Donc, tu fais avec les moyens du bord, mais tu réfléchis intelligemment, à peu de cerveau. En l'occurrence, mais ça va vite. Donc, au lieu de perdre énormément de temps, tu agis, tu mets en place, tu rectifies et tu avances très très vite en fait. Et comme tu as pas beaucoup d'argent, tu fais vraiment avec ces moyens du bord. Mais c'est intéressant, quoi. Les problèmes viennent souvent d'ailleurs au moment où la boîte commence à avoir de l'argent, c'est-à-dire qu'elle commence à toucher au succès, tout le monde en entend parler. Personne n'aurait voulu prendre de risque au départ. Et puis une fois que la boîte commence à être connue, que ça fonctionne, alors là, les emmerdes commencent.
Et dans ce cas-là, tu réagis comment, toi, quand les emmerdes commencent?
Ça dépend de comment ça se passe. Il y a plein de structures où j'ai continué derrière parce que les gens avaient un vrai projet, avaient respecté ce qui avait été monté et respectaient surtout la manière dont ça fonctionnait finalement et ce qui a fait le succès de ce qu'ils ont racheté. Parce qu'il faut pas l'oublier, quand on rachète quelque chose, en général, c'est parce que ça a marché. Donc quand on s'évertue finalement à le détruire, faut quand même se poser la bonne question, quoi. C'est est-ce qu'on a racheté quelque chose pour que ça continue à fonctionner ou est-ce qu'on l'a racheté pour le faire disparaître? Et récupérer la clientèle. Voilà, c'est des choix différents. Mais au bout d'un moment, oui, moi j'aime bien. Peut-être je m'ennuie peut-être plus rapidement. au bout d'un moment, et je pense que je suis fait effectivement pour démarrer des choses, les monter à maturité, et puis après, quand ça tourne, bon, ça m'intéresse un peu moins, quoi. Ça devient presque routinier, c'est pas inintéressant, mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont peut-être mieux placés que moi pour le faire après, pour le gérer.
Tu disais que tu avais recruté quelqu'un qui t'avait remplacé dans la région pour te permettre, toi, d'évoluer, de faire autre chose. Et souvent, on dit que c'est un bon conseil d'aller chercher un second qui est capable de faire mieux que toi, te remplacer pour te donner la liberté de progresser. Est-ce que ça, tu l'avais en tête ou est-ce que c'était arrivé au hasard, par hasard?
Alors, c'est pour moi, il n'y a pas de hasard. En fait, il n'y a que des rencontres. Donc, il est évident que si la personne que j'avais recrutée, je ne m'entendais pas avec, ça ne fitait pas, ça n'aurait pas été elle, quoi. Mais c'est avéré que c'était elle. C'était la bonne personne au bon moment, au bon endroit, et parce qu'on avait aussi partagé une création, donc c'est beaucoup de d'investissement, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup d'échanges, donc c'est beaucoup de confiance. Donc on sait en fait où on met les pieds, et lui aussi sait d'ailleurs où il met les pieds, et il sait qu'il pourra toujours compter l'un comme l'autre finalement sur ce qu'on a partagé, quoi. Donc ça reste quand même des valeurs fortes. De quand tu démarres quelque chose, tout le monde se moque de toi en général. Pourquoi tu vas concurrencer France Télécom? T'es complètement cinglé, enfin n'importe quoi. Et puis quand ça commence à fonctionner, que tu commences à prendre des gros clients, donc en fait tu manges ton pain noir finalement, mais tu continues, tu avances, t'es déterminé, et finalement les gens te font confiance aussi à toi, donc à tes équipes, à ce que tu fais, parce que t'as rien derrière toi, t'as pas de nom, t'as pas d'entreprise, y a pas de... Donc c'est vraiment toi qui fais la différence, et c'est certainement le plus intéressant de tout, c'est que c'est pas parce que tu as les meilleurs produits que ça marche. C'est parce que t'as des mecs qui sont motivés, qui y croient, qui ont confiance en eux, et ils sont beaucoup plus forts. Ils sont convaincants, putain. On était convaincants, quoi. Et c'est pour ça qu'on en a convaincu plein, quoi. Parce qu'on était convaincants et on y croyait, quoi.
Vous vous souvenez pourquoi vous étiez convaincants? Qu'est-ce qui faisait que vous arriviez à convaincre?
Ah ben moi, je trouvais ça juste génial. Déjà, t'apportais des économies. Tu te posais pas de questions. Avant, tu payais, tu fermais ta gueule, et puis voilà, il y avait pas d'autres discussions, quoi. T'étais un abonné, quoi. Nous on arrivait avec une solution qui était abracadabrante, où tu pouvais faire 25% d'économie, mais il fallait que tu changes quelques habitudes, déjà la tienne. C'est-à-dire, pourquoi tu irais faire confiance à quelqu'un qui est 25% moins cher, alors que tu as toujours payé très cher, soi-disant la Rolls des télécoms? Ben, tout simplement parce que maintenant il y a une autre solution. Voilà.
Mais donc ça veut dire que c'était le produit qui faisait que vous étiez en train de gagner des parts de marché, puisque tu disais quand même que vous convainquiez. C'est sûrement lié à vos compétences, non? Qu'est-ce qui faisait que vous arriviez, vous, à convaincre que ce produit était le meilleur?
C'est pas que ce produit était le meilleur, c'est que nous, on leur faisait juste comprendre, parce que tout le monde se dit, mais c'est pas possible, comment tu peux faire 25% moins cher quand on a toujours payé, mais parce que ça fait des années que...
voilà. Que vous surpayez.
Ça fait des années, il n'y a pas de concurrence, d'accord? Donc t'as pas le choix. Donc te pose pas la question pourquoi on peut être moins cher, pose-toi plutôt la question pourquoi t'as toujours payé aussi cher. Mais celle-là, tu vas pas te la poser. Pourquoi? Parce que t'as jamais eu la possibilité de te la poser. Maintenant que t'as le choix, pose-toi la bonne question. Est-ce que t'es prêt à faire le pas d'essayer de payer moins cher? Tu verras que tu appelleras de la même manière. Tu n'entendras rien en différence. Par contre, t'auras payé moins cher. Mais est-ce que tu vas faire confiance à un Pierre Masselski? Tu connais ni d'Ève ni d'Adam, une structure dont t'as jamais entendu parler. La balle est dans ton camp.
J'ai envie de te poser la question quand même si la réponse me paraît évidente. On pose la question à nos invités sur leur réussite, de nous raconter un succès professionnel qui les a marqués, récent ou lointain, quelque chose où ils ont l'impression de faire bouger les lignes.
Ah bah alors, il y a Omnicom, mais il y a certainement aussi un deuxième qui était assez fou. C'était chez Poéo, c'était le début aussi de la concurrence du marché de l'électricité, où forcément le régulateur l'ouvre dans des situations les plus complexes. C'est-à-dire que tu pouvais attaquer que les très très gros consommateurs, donc des grosses structures, et n'étant pas connu, c'était assez compliqué. Et le jour où on faisait notre réunion avec Charles Beck-Bédé, ce jour-là, en fait, j'ai eu deux fax, parce qu'à l'époque, ça fonctionnait encore avec des fax. Okay, pourquoi? Parce que c'est pas qu'on n'avait pas de mail, on commençait déjà à avoir des mails, mais le mail n'orodatait pas.
Il n'avait pas de valeur juridique.
Le prix de l'électricité étant très fluctuant, il fallait qu'il y ait une heure précise pour qu'on puisse garantir un prix fixe. Sinon, ça bougeait. Donc c'était assez fluctuant, c'était hyper intéressant. Et ce jour-là, en fait, on était en réunion et on faisait le point un peu sur ce qui se passait. Et en fait, j'ai reçu deux fax avec les deux premières commandes d'électricité, en fait. Et donc, c'était le début du début, sauf qu'on s'est posé après les questions. Donc, on a ouvert une bouteille, on s'est bien marré. Après, on s'est dit, mais maintenant, il va falloir trouver les fonds pour l'acheter, cette électricité. Voilà, ouais, tu sens que tu bouges les lignes parce que tu as des gros consommateurs t'ont fait confiance alors que tu ne représentes rien, finalement. Et tout démarre de là, quoi. C'est-à-dire que sans clients, bah, tu fais rien. Donc, il y en a qui te font confiance et c'est ces clients-là, finalement, qui t'emmènent à changer les choses, quoi.
Tu te souviens de la négociation ou des échanges que tu avais eu avec ces deux premiers clients?
Ah oui, oui, je m'en souviens parce qu'on s'est vu de nombreuses fois où il a fallu, d'une part, les rassurer, leur montrer comment ça fonctionnait. Mais c'était très intéressant parce que les premiers me disaient toujours, les industriels, moi, je suis pas industriel au départ, mais les industriels disaient toujours, ouais, mais alors, quel prix vous faites? De combien vous pouvez être moins cher? Et moi, je leur disais, mais... comment vous consommez-vous? Parce que finalement, l'électricité la moins chère, ça reste quand même celle que tu consommes pas, quoi. Nonobstant le fait que tu puisses la payer plus cher ou moins cher, si déjà tu regardes la manière dont tu fonctionnes, dont ton industrie, si tu arrives le matin, si tout le monde démarre les machines en même temps, fait les appels de puissance, t'es obligé d'avoir des trucs dingues, donc t'as que des pointes en arrivant, donc t'es obligé d'avoir des niveaux de puissance très élevés, tu payes des abonnements pour ça, et en fait après tout le monde fonctionne calmement. Voilà, donc c'est-à-dire que si tu décales par exemple tes allumages de machines d'une demi-heure, donc tu te réorganises différemment, voilà, déjà tu as gagné beaucoup d'argent. Donc vous voulez qu'on parle du prix de l'électricité?
D'accord, donc ça veut dire que c'est intéressant, tu es arrivé sur une fonction de conseil?
Oui, complètement. Complètement, parce que ma légitimité, elle était, de toute façon, elle sera jamais dans le prix. Il y a toujours quelqu'un qui fait moins cher que toi, plus cher que toi. Enfin, c'est pas là qu'il y a de la valeur ajoutée. Mais par contre, quand tu leur fais comprendre ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est pas le prix de l'électricité. C'est comment vous consommez et comment tu peux faire pour consommer moins, puisque c'est celle-là la moins chère. Tu peux la retourner dans tous les sens, quoi. Mmh. Celle-là, elle vaut zéro.
Ouais, c'est intéressant. Et comment est-ce que tu es arrivé à savoir vendre comme ça?
Formation, puisque j'étais pas un grand travailleur, mais mes parents m'ont aidé, parce qu'ils m'ont orienté, donc j'ai fait un BTS de commerce international. J'étais plus international, moi j'aimais bien les incoterms, j'aimais bien tout ça, quoi. Et puis après je fais une école de commerce, et puis je suis rentré à l'époque où c'était quand même un peu compliqué, c'était une situation marché du travail tendu, comme on peut avoir en ce moment, ça dépend des secteurs d'activité, mais comme tu peux avoir aussi en ce moment. Et donc, j'ai commencé par la vente. Donc, en fait, tu crois que tu vas tout casser, puis tu commences en bas, puis tu apprends les techniques. Et donc, j'ai fait mes armes sur le terrain avec une très bonne école de vente qui est Canon, où à l'époque, il y avait vraiment une école de vente. C'est-à-dire que tu n'étais pas balancé, on te formait, il y avait des gens qui t'expliquaient. Tu avais un chef des ventes. Moi, le premier chef des ventes que j'ai eu, c'était presque un papa. Il me laissait me mettre dans le mur, mais après il m'expliquait, jamais il m'a jugé en me disant pourquoi t'as fait ça, c'est n'importe quoi, tu te prends pour qui, tu te rends pas compte. Et il m'a toujours soutenu et il m'a toujours apporté et appris par son expérience. Donc j'ai énormément grandi à ses côtés, et c'est comme ça finalement que j'ai pris goût, certainement peut-être à la vente, mais à cette manière-là de vendre. Pas vendre pour vendre, mais vendre parce que tu vas apporter une solution. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait mes plus belles ventes, en fait. Pourquoi? Parce que je grenouillais dans les entreprises et que finalement, tous ceux qui passaient leur temps à claquer du prix, moi, j'étais ailleurs et en fait, il y avait des besoins qu'ils n'avaient pas du tout vus. Et c'est là où moi, j'intervenais, quoi. Et donc, le reste du parc, ça passait naturellement parce qu'ils n'avaient même pas vu, en fait, que ça coûtait 10 fois plus cher juste à côté, dans le bureau d'à côté, quoi.
Quand tu dis je grenouillais, c'est quoi? C'est que tu t'intéressais, tu passais du temps,
Voilà, moi j'allais pas voir que l'acheteur, je le voyais qu'à la fin, l'acheteur. Et souvent, c'était les personnes à l'intérieur de l'entreprise qui disaient, nous c'est cette solution-là qu'on veut.
Donc, t'écoutais?
J'écoutais les besoins, et puis surtout, j'anticipais des choses, et j'essayais d'être le plus créatif possible dans les solutions financières, notamment. J'ai été un des premiers à faire des coups copies couleurs, par exemple. C'est-à-dire que les personnes, il y avait beaucoup de services marketing qui sous-traitaient, à l'époque, l'impression couleur, et ça leur coûtait une fortune, c'est très très cher la page, et moi, j'aurais simplement mis à disposition une machine couleur, donc ils avaient un truc du top de ce que faisait Canon à l'époque, et ils payaient qu'un coup copie. Voilà, mais comme ils le payaient beaucoup moins cher, et il l'avait à disposition, il faisait beaucoup plus de copies. Et c'est tout le monde qui était gagnant.
Tu disais que la personne qui t'encadrait avait été un peu ton père de la vente. Est-ce que dans ta carrière professionnelle ou depuis, en fait, est-ce que tu as eu d'autres personnes qui t'ont vraiment inspiré, qui t'ont vraiment aidé, guidé, les mentors peut-être?
Alors, celui qui m'a guidé, oui, au départ, effectivement, c'est Dominique Koebler, ce chef des ventes que je revois de temps en temps encore, on discute. Mais ceux qui m'ont vraiment ouvert, c'est les deux fondateurs d'Omnicom, enfin les trois, parce que t'as aussi un fondateur technique, ils étaient à trois, c'était un triptyque, ce qui est assez rare.
Un triumvirat.
Ouais, mais moi j'aime bien le triptyque, c'est un peu comme un tableau, quoi. Et oui, Alain Nicolazzi, Florent Martin Duplan et Philippe Aitaya, ouais, c'est trois personnes, en fait, qui m'ont beaucoup inspiré par leur côté totalement différent. Il y en a un qui était très technique, l'autre qui était beaucoup plus charismatique et un qui était très business, mais avec un super fonctionnement, en fait, très humain, très très ouvert et à la fois très performant. C'est-à-dire je sous un aspect je rigole, je m'amuse, je bosse. Je bosse et quand il faut pas rigoler, je rigole pas, quoi. Mais dans ces cas-là, tout le monde ne rigole pas et bosse. Mais quand il faut rigoler, alors je rigole et on rigole vraiment bien, quoi. Donc ils savaient vraiment faire la part des choses et surtout ils ont été capables de s'entourer de personnes qu'on continue d'ailleurs à se revoir. Donc c'est-à-dire qu'il y avait vraiment quelque chose de puissant humainement parlant. Donc oui, eux m'ont beaucoup inspiré parce que c'était à la fois trois personnes complètement différentes, mais finalement on avait l'impression d'en avoir qu'une. Ce qui était assez fort.
Et dans l'univers de la mer que tu as côtoyé un moment, est-ce qu'il y a eu des personnes qui t'ont spécialement inspiré?
Ah oui, moi c'est mon parrain sur cette traversée, c'est le petit bonhomme que j'ai rencontré sur le salon qui est devenu mon parrain avec qui j'ai pris son bateau, il m'a aidé. Oui, c'était pour moi c'est de toute façon c'était limite comment dire, je sans lui, j'aurais certainement jamais fait. Pour la petite anecdote, j'ai été le voir en disant, écoute, il s'appelle Pierre aussi comme moi, comme quoi il n'y a pas de hasard. Et je dis, Pierre, je veux absolument la faire, cette traversée, quoi. Mais j'aimerais, parce que je voulais pas lui dire je veux, tu vois. Mais j'aimerais que ce soit avec toi. C'est-à-dire que tu m'accompagnes, parce que j'y connais rien à la mer, quoi. Mais rien du tout, quoi. Et avec ton bateau. C'est-à-dire que tous les deux, en fait, vous m'accompagnez, quoi. Et il m'a regardé droit dans les yeux, quoi. Il m'a dit banco. Donc j'ai été le premier surpris, parce qu'il savait très bien que j'étais pas marin du tout, et que c'est forcément quelque chose de complexe. Et on n'avait même pas discuté du prix du bateau. Donc je lui ai dit, je m'en fous du prix, c'est tellement important pour moi, je te fais une reconnaissance de dette, tu me dis le prix, et puis de toute façon, je me débrouillerai pour. Il m'a re-regardé dans les yeux, il m'a dit, je t'ai dit banco. Voilà, donc c'est ouais, ce type de personne, forcément, ça change un certain nombre de choses. Ouais. Ça te pousse à en faire d'autres.
Toi, t'as dit banco à quelqu'un depuis?
Ah bah, le bateau est reparti. Il y en a plein que j'ai aidé aussi. J'ai aidé deux petits jeunes à traverser le Pacifique. Je suis parrain d'une très belle opération qui s'appelle Etarcos. C'est Socrate à l'envers. C'est une très beau projet, en fait. C'est Stéphane Brognard, c'est un ancien ultra-trailer de niveau mondial qui va traverser le Pacifique en 2021. Et donc, on échange beaucoup, on discute beaucoup et on prépare ensemble, non pas parce qu'il est entouré de plein de choses, mais il y a beaucoup de discussions parce que toutes les expériences, en fait, mais chacun fait ça à traverser. Mais parfois, en discutant, ça permet aussi de se rendre compte, de prendre du recul, de sortir de ses a priori, de ses certitudes, parce que des fois, c'est pas bon. Enfin, on a des mauvais raisonnements, mais on le sait pas. On est persuadé que c'est les bons, quoi. Et finalement, en s'entourant et en discutant, on finit par se rendre compte que c'est pas si con que ça, ce qu'il dit, le mec. C'est pas si... Je prends.
Depuis que t'as retrouvé la terre ferme, qu'est-ce que c'est que ton métier depuis? Qu'est-ce que t'as fait?
Tout de suite après la terre ferme, j'étais directeur digital pendant 4 ans, donc j'ai vécu beaucoup de transformations, notamment du coup, en tous les cas, j'ai aidé, j'ai permis de passer finalement de... J'ai mis une de l'âge de pierre à mon âge, mais au digital, on est passé à la vente en ligne. On est passé de la vente de comptoir à la vente en ligne. C'est une expérience très, très intéressante. Puis ensuite, j'ai été PDG d'une petite PME de 60 personnes. Assez intéressant. Puis à un moment, je me sens peut-être prêt maintenant à digérer. Je pense que j'avais digéré cette traversée. J'ai mis quand même 5-6 ans à la digérer. Hein. En tout cas, à voir ce que j'en avais retiré. Et finalement, me servir de ce que j'ai appris, de ce que j'ai ressorti de cette traversée pour le transmettre. Donc maintenant, je fais des conférences. Alors, dans l'entreprise, je fais aussi beaucoup de collèges, de lycées, parce que j'aime bien... Je me dis que plus on peut éveiller tôt l'audace, la prise de risque, la prise de recul, le rêve, l'envie, en fait, que les yeux pétillent, et mieux c'est, quoi.
Donc sur le fond, effectivement, tu parles d'audace, tu parles de d'aller au-delà de tes craintes, de lister tes envies. Ça, c'est les thématiques. Mais sur la façon dont tu es conférencier, donc dans tes expériences passées, tu n'avais jamais été conférencier. Tu avais eu des équipes, donc tu avais dû parler en équipe, mais c'est, j'imagine, différent de monter sur une estrade tout seul avec un micro et de se raconter et de transmettre. Comment est-ce que tu as commencé à faire ça et qu'est-ce que tu as fait pour y arriver?
C'est toujours pareil, ce sont des rencontres. Alors des envies, des rencontres, ce qui fait que les rencontres ne sont jamais anodines ou c'est jamais un hasard, puisque tu fais cette démarche, en fait, c'est qu'au fond de toi, t'es déjà prêt peut-être, ou tu sens que c'est ça, ou tu as envie de ça, donc forcément tu vas attirer des personnes qui sont aussi dans cette logique-là, puisque tu dégages quelque chose. Et puis certainement qu'au fond j'ai vraiment quelque chose à raconter de différent, parce que j'ai un passé dans les entreprises, donc je sais comment ça fonctionne dans une entreprise. J'ai pas forcément été d'accord avec tout, j'ai pas forcément vécu des choses qui m'ont toujours fait triper, vibrer, mais majoritairement oui. Mais à un moment j'ai pris des décisions parce que ça me plaisait plus, où ça me correspondait plus, mais j'ai aussi vécu des choses où on les a prises à ma place, parce que peut-être je les avais pas prises non plus. Donc ça fait réfléchir à un certain nombre de choses, mais surtout qu'on, in fine, on n'en a qu'une de vie, et on passe un paquet de temps au boulot. Donc autant quand même qu'on s'y éclate, et autant qu'on arrive à faire la part des choses, parce qu'il n'y a pas que le boulot non plus. Et que si on veut être performant et s'éclater, bah, il faut arriver finalement à trouver cette espèce d'harmonie entre le pro, le perso, ses passions, ou en trouver si on n'en a pas. Mais à un moment, il n'y a pas que le boulot, sinon on sait ce que ça finit par donner, en fait. Et malheureusement, ça donne toujours les mêmes choses. Des gens qui sont en boucle, qui ont du mal à faire la part des choses entre ce qui est utile et futile, et qui finissent par tout mélanger, quoi, en permanence. Et on est obligé, à un moment ou à un autre, de travailler avec ces gens-là, quoi, où il n'y a plus de cohérence, plus de sens, plus de... Mais parce qu'ils sont eux-mêmes, en fait, dans une perte complexe de repères. Et ils savent même plus pourquoi ils sont là. Mais par contre, il te demande à toi de savoir où tu es. Et c'est là qu'il y a un petit souci, quoi. En tout cas, c'est là que toi, tu peux ressentir que t'es plus tout à fait en adéquation. C'est-à-dire que toi, t'as bien compris que les messages qu'on te passait ou qu'on te donnait, ou les directives, ou les visions, ou les caps, comme on peut appeler, ils ont rien à voir avec ce que tu vis au quotidien, tu vois. Donc ça a plus du tout de lien, quoi. Et donc, faut pas s'étonner si les gens ne te suivent plus. C'est juste normal, ils sont pas bêtes. Hein.
Tes conférences, elles sont suivies d'échanges avec les personnes dans la salle. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment du monde du travail quand tu interviens en entreprise?
Alors, ce que je ressens, il y a toujours des échanges. Parce que finalement, c'est souvent le moment le plus intéressant pour tout le monde. Pourquoi? Parce que ça éveille, en tout cas, c'est ce que je souhaite faire, c'est éveiller. Pour que les gens se posent les bonnes questions, ou en tout cas les leurs, que chacun ait pioché finalement là-dedans. Et le partage derrière est vachement intéressant, parce que c'est pas forcément des peurs qui reviennent, c'est surtout des parallèles qu'on va faire avec ce qu'on a vécu, ou avec ce qu'on sent qu'on est en train de vivre, ou avec peut-être ce qu'on aurait aimé vivre. Donc il y a parfois des fois du regret. Et surtout des parallèles aussi avec la vie qu'on a pu avoir et qu'on aurait peut-être aimé être différente. Donc c'est toujours intéressant, parce que c'est des moments qui sont beaucoup plus ouverts. Et ceux qui osent poser les questions, c'est toujours pareil, il y en a qui n'osent pas, on se voit souvent derrière, et après ça peut aussi parler en face-to-face, quoi, ce qui est aussi assez intéressant, quoi.
Tu disais que il y avait un risque d'être dans la surcharge mentale liée au travail. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu déconnectes, tu décompresses, tu te reposes?
Alors moi, je pense que la traversée, parce que j'ai rien inventé, en fait. Hein. C'est beaucoup de bon sens, c'est aussi ce que j'ai vécu en mer. Il y a un moment, si tu t'écoutes pas, si tu fais pas attention à toi, si t'es pas un minimum en adéquation entre ta tête et ton corps, tu vas pas très loin, quoi. Mais vraiment, quoi. Et t'es vite face à toi-même, donc c'est très vite instable. C'est-à-dire que tu renverses un café, tu pleures. Enfin, tu vois, ça peut être ça. T'es vraiment, et puis d'un coup, tu vois un truc, pouf, tu ris. Donc mais tu sais que si tu t'autorises à un moment de passer du mauvais côté de la bascule, alors ça va mal se terminer pour toi, quoi. Donc, tu vas chercher finalement tout ce que tu peux prendre de positif, tu vas le chercher. C'est pas que parce que t'as pas le choix, mais parce que sinon tu sais que ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué, quoi. Donc de quelque part, la mer t'impose une telle violence, une telle rigueur, et puis elle s'en fout, elle. T'as pas demandé d'être là, hein. Elle continue à dérouler, elle est bien plus puissante que toi, bien plus belle, bien plus intelligente au fond, parce qu'elle est là depuis bien plus longtemps que toi, et toi tu n'es juste finalement que t'as la chance quelque part, t'es l'invité privilégié de ça, mais quand tu t'en rends compte, bah tu en tires beaucoup de force, parce que finalement elle te laisse passer aussi, donc elle a une certaine sollicitude. Et cet échange-là, il est assez intéressant parce que elle te permet de te remettre face à ce que tu es. Pas grand-chose, quoi. Tout simplement, quoi. Et que seul, t'y arriverais pas non plus. C'est-à-dire que si t'avais pas tout ce soutien à terre, toute cette préparation, tout ce que les gens t'ont donné, c'est dans ce bateau, c'est ce que je dis, j'ai jamais été seul, quoi. La solitude, c'est une pure vue de l'esprit. Et c'est pas différent à terre. C'est exactement pareil. Mais on a tendance à l'oublier. On a complètement tendance à l'oublier. Et pourtant, c'est l'essentiel, il est bien là, quoi. On n'est pas fait pour être seul, quoi. C'est comme ça.
Donc, ce que tu dis, c'est que toi, tu t'entoures, t'es entouré pour garder un équilibre. Tu continues à faire du sport, parce que j'imagine qu'il y avait quand même un certain entraînement physique.
Alors, je dirais que je m'y suis vraiment mis, du coup, parce que toutes mes expériences passées où tu bosses beaucoup, où tu as des responsabilités, où finalement tu enchaînes les réunions sur réunions sur réunions, en fait, tu ne t'autorises plus de temps pour toi. Donc t'as tendance à oublier ce pourquoi tu es. Après tu comprends plus pourquoi t'es pas très bon non plus sur certaines choses, mais parce que t'es fatigué, parce que tu manques d'exercice physique. En fait, t'as des batteries qui sont plus à niveau, qui sont déchargées, et donc tu tires sur la corde et on sait tous où ça mène. Donc voilà, moi j'ai rééquilibré beaucoup de choses en fait, et je me suis simplement rendu compte que si tu t'autorises à t'écouter un peu plus, putain mais t'es vachement meilleur, hein. T'es beaucoup plus serein. T'es beaucoup plus percutant, t'es beaucoup plus lucide. Tout le temps que tu pensais perdre, en fait, tu en gagnes énormément, mais vraiment énormément. Et surtout, c'est les mots, les paroles que tu as ou les décisions que tu prends, elles ont un impact.
S'écouter concrètement pour toi, c'est quoi ? Enfin, tu passes par c'est quel outil, quelle technique ?
Ben, c'est assez simple. Hein. Quand t'es fatigué, tu vas te coucher, tu vois. Par exemple, si t'es vraiment fatigué, t'as passé une sale nuit, bah tu diminues tes cafés, sinon tu vas être speed la journée. Voilà, c'est des petites choses que tu peux faire au quotidien. Et puis à un moment, va t'aérer la tête, quoi. Okay. Voilà, va t'aérer la tête. Tu peux pas fonctionner. Il y a un moment, j'aime bien moi ce truc-là. On a à peu près 3 niveaux de batterie. Tu vois, il y a la tête qui nous emmerde en permanence, qui est le côté rationnel, qui est le côté qui toujours te ramène finalement à ce que tu connais, à ce qu'on t'a dit, à ce qu'on t'a appris, c'est chiant. T'as le côté émotionnel, c'est le cœur. Des fois, on comprend pas trop d'où ça vient. D'un coup, j'ai peur, je sais pas trop pourquoi. Un coup, je suis hypersensible, ou c'est de la colère, ou donc ça, il y a peut-être un travail à faire, mais qui peut être plus profond que ça. Donc, on le comprend pas forcément toujours. On met des années, des fois, à le comprendre. Parce qu'il y a peut-être un travail plus fort, des fois, à faire dessus. Mais le corps, par contre, c'est hyper simple à comprendre. Le corps, il a besoin de nourriture, de sommeil et d'exercice. Et pourtant, on l'oublie. Donc déjà, si tu remets ça, je peux te dire que c'est déjà pas pareil pour les autres. mais t'as au moins un tiers de tes batteries, en l'occurrence, qui vont agir sur les autres, et où ça change beaucoup de choses. Mais on n'a jamais le temps pour ci, mais on prend pas le temps pour ça, mais moi si, mais bah, prends-le, puis tu vas voir que ça change tout, quoi. Mais faut déjà le prendre. Donc faut faire l'effort, finalement, de faire des efforts pour toi.
Est-ce que tu prends le temps ou est-ce que tu as le temps de lire ?
De plus en plus en fait, mais je suis pas encore un gros lecteur. Moi, j'aime beaucoup les magazines. Je dévore beaucoup de magazines économiques. J'aime bien les BD, mais les bouquins, j'ai toujours du mal quoi à mettre dedans.
Il y a une BD que tu nous conseilles ?
Bah ouais, le dernier Astérix.
Ok. Non, on mettra les références sur le site. Je l'ai pas lu.
Les Tintins, moi j'adore les Tintins. Ça m'a toujours fait rêver le bateau avec cette bulle. À chaque fois que je replonge dans un Tintin, je trouve que c'est plein de. Je redécouvre toujours plein de choses. Il y a plein d'écrits, il y a plein de finesse, il y a plein de. J'aime beaucoup en fait.
C'est Rackham le Rouge, c'est ça?
Ouais, il y a Rackham le Rouge, mais il y a Sur la Lune.
Ah oui.
C'est pas mal avec le Milou. Enfin, il y a plein de trucs qui sont assez sympas en fait et qui te ramènent finalement à la fois au côté enfant, rêve, mais à la fois très très réaliste, très dur, très. C'est assez sympa quoi.
Et est-ce que tu écoutes des podcasts?
Non, malheureusement pas trop. Alors si j'en écoute de temps en temps quand ça passe, puis t'as de plus en plus de mais il y a tellement de sollicitations que des fois c'est assez compliqué de trouver le bon. Et puis on devient tous un peu feignants aussi. Donc des vidéos avec des trucs très courts, t'es plus attiré des fois par ça. Mais j'ai fait pas mal d'émissions radio. Je trouve que c'est sympa aussi parce que t'as pas d'image justement et tu te projettes un peu comme dans un bouquin d'ailleurs. Et je trouve que c'est assez chouette.
Est-ce que tu te lancerais dans une définition de la réussite? Ou ta définition, bien sûr, ta définition de la réussite?
Alors, alors ma définition de la réussite, forcément, elle va être très personnelle. Pour moi, la réussite, c'est pas forcément de gagner ou de. C'est vraiment d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire, quoi. Et de se retrouver. Et d'être fier, finalement, de ce qu'on a fait. On se le dit peut-être pas assez, on fait souvent beaucoup de choses. Et on s'autorise pas à se dire que c'est quand même pas mal ce qu'on a réalisé. Alors on aurait peut-être pu faire mieux, mais au lieu de se dire on aurait pu se dire simplement que c'est déjà bien. Et ça commence comme ça en fait. C'est des petites réussites où on va s'autoriser finalement à se dire que c'est bien ce qu'on a fait. C'est déjà la première réussite, quoi.
Ça me va bien, c'est une belle définition. On arrive à la fin de notre conversation.
Déjà,
bah oui, 45 minutes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ta vie professionnelle, pour ton avenir professionnel?
Bah, j'aime bien maintenant le terme bon vent.
Bon vent. Bon, bah alors, bon vent alors.
Merci.
À bientôt. Au revoir, Pierre.
À bientôt.
J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer? Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent Précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant 4 types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.